Ardigan.
Ardigan présente la trilogie de l'Empire, tome 3, Maîtresse de l'Empire, de Raymond Ifeist et Jeannie Wurtz. Traduit de l'anglais par Anne Vétillard, lu par Manon Jomain. Chapitre 1. Tragédie. Le soleil brillait en cette belle matinée d'automne. Au bord du lac, l'herbe étincelait de rosée, tandis que la brise emportait doucement les cris des chatras en train de construire leur nid. La dame Mara des Acoma savourait la fraîcheur de l'air qui allait bientôt céder la place à la chaleur du jour. Assise dans son palanquin, son époux à côté d'elle et son fils de 2 ans, Justin, somnolent sur ses genoux, elle ferma les yeux et poussa un long soupir de contentement. Mara glissa ses doigts dans la main de son compagnon. Okanou sourit. Il était indéniablement d'une grande beauté et un guerrier éprouvé. Ses temps plus tranquilles n'avaient pas diminué son apparence athlétique. Il serra la main de son épouse d'une façon possessive, masquant sa force sous une grande douceur. Les 3 années qui venaient de s'écouler avaient été heureuses. Pour la première fois depuis son enfance, Mara se sentait en sécurité, protégée des intrigues politiques incessantes et meurtrières du jeu du Conseil. L'ennemi qui avait tué son père et son frère ne la menaçait plus. Il n'était plus que poussière et mauvais souvenirs, et il avait entraîné sa famille dans sa chute. L'empereur avait même donné ses terres ancestrales et son magnifique manoir à Mara. La superstition affirmait que la malchance s'attachait à la terre d'une famille déchue. Mais en cette merveilleuse matinée, le malheur semblait se cacher. Le palanquin avançait lentement le long du lac et le couple de seigneurs partageait la paix de cet instant en contemplant le foyer qu'il avait créé. Niché entre des collines abruptes couronnées de rochers, la vallée qui avait autrefois appartenu au seigneur des Minwanabi était non seulement naturellement défendable, mais si belle qu'on l'aurait cru bénie des dieux. Un ciel placide se reflétait sur le lac aux eaux ridées par les rames de la légère embarcation qui emportait les dépêches destinées aux intendants de la Cité Sainte. Des péniches manœuvrées par des esclaves chantant à plein poumon transporteraient bientôt les récoltes de céréales vers les entrepôts. Les marchandises y resteraient stockées jusqu'à ce que les crues de printemps permettent leur transport en aval. La brise sèche de l'automne faisait ondoyer les herbes dorées et le soleil matinal donnait au mur du manoir l'apparence de l'albâtre. Plus loin, dans une dépression naturelle, les commandants Lujan et Xandia faisaient manœuvrer de concert des troupes Akoma et Shinzawai. Okanou hériterait un jour du titre de son père, car son mariage avec Mara n'avait pas uni les 2 maisons. Des guerriers en vert Akoma marchaient au même pas que les soldats en bleu Shinzawai, leurs rangs parsemés du noir des divisions insectoïdes Shoja. Grâce à l'octroi des terres Minwanabi, Dame Mara avait gagné l'alliance de 2 fourmilières supplémentaires et obtenu de leur reine 3 compagnies de guerriers engendrés pour le combat. Un ennemi assez stupide pour lancer une attaque contre les Akoma serait rapidement anéanti. Mara et Okanou, avec l'appui de leurs vassaux et alliés, commandaient à eux deux une armée permanente sans égale dans l'Empire. Seuls les gardes-blancs impériaux de la lumière du ciel, accompagnés de levées d'autres maisons placées sous leurs ordres, pouvaient rivaliser avec ces 2 armées. Et si des troupes expérimentées et une forteresse quasi imprenable ne suffisaient pas à assurer la tranquillité de Mara, le titre de père de l'Empire, qu'elle avait reçu pour service rendu à Tsuranwani, lui offrait une adoption honorifique dans la famille même de l'empereur. En fait, les gardes blancs impériaux prendraient probablement sa défense, car d'après les règles de l'honneur si chères à la culture Tsuranwani, une insulte ou une menace envers Mara était une offense à la famille même de la lumière du ciel. « Tu sembles particulièrement satisfaite de toi ce matin », murmura Okanou à l'oreille de son épouse. Mara se pencha et posa la tête contre l'épaule d'Okanou, les lèvres entrouvertes pour recevoir son baiser. Au plus profond de son cœur, la passion impétueuse qu'elle avait éprouvée pour le père de Justin, l'esclave barbare à la chevelure flamboyante, lui manquait. Mais elle avait fini par accepter cette perte. Okanou était une véritable âme sœur, qui partageait sa finesse politique et son goût pour l'innovation. Il avait l'esprit vif, était bon et lui était entièrement dévoué. Il tolérait même sa nature volontaire,